qui est le gond de la porte, c'est le pivot, c'est un mois qui est pivot, c'est le mois de la fin, c'est le mois du début, c'est le mois de la croix glorieuse, c'est le mois de la fameuse fête de la croix glorieuse, le 14 septembre. C'est le mois qui nous amène en pleine automne. C'est le mois du dépouillement. C'est le mois de l'appauvrissement. C'est aussi le mois de la fin des jubilés. C'est le mois, le mois où on remet tout pour que tout soit partagé. C'est beau ce rythme d'ailleurs, dans la liturgie, des différents mois qui s'écoulent comme ça. Et alors bon, nous avons une exigence, enfin, un appel en tout cas de Dieu à regarder les choses en toute simplicité. Il faut avoir de l'humilité. L'humilité. Parce que celui qui a toujours son petit point d'orgueil à l'intérieur de lui, s'il reste le point d'orgueil, la racine du mal est dans tous ses actes, dans toutes ses pensées, dans tous ses regards, dans toutes ses réceptivités, dans l'humilité, c'est bizarre ça, hein? Que l'humilité soit comme le curé d'Ars disait, on trouvera au ciel beaucoup de pécheurs qui ont péché contre les différentes contre la pureté, contre la colère. Mais on ne trouvera pas l'orgueilleux. Et en enfer, on ne trouvera pas l'humilité. Mais en enfer, on trouvera bien sûr les autres fois. Les autres qualités. On trouvera des chastes, on trouvera des gens qui ont la magnanimité, la magnificité. Mais l'humilité, non. L'humilité, c'est... Tu passes ou tu passes pas. Celui... Tu passes ou tu passes pas. Et pour avoir... C'est la foi qui justifie, c'est vrai, qui fait passer à la grâce gratuite, à la grâce sanctifiante. Mais s'il y a le point d'orgueil, la grâce ne peut pas augmenter. Et donc la grâce n'est pas la grâce sanctifiante. C'est une succession de grâces actuelles, chrétiennes, surnaturelles, qui se succèdent. Mais pour que la grâce actuelle, qui est toujours transitoire, une grâce infuse finalement, sans aucun mérite de notre part, en raison de la prière de l'Église, en raison de la prière de la famille, de papa, de la mère, de ça. Alors on est en état de grâce, si je puis dire, permanent. Dans un monastère, on peut très bien être en état de grâce permanent, sans qu'il n'y ait jamais la grâce sanctifiante. Et ce qui fait la différence, c'est le point d'orgueil. Alors, il y a des... Vous allez, par exemple, Vous allez dans les monastères, vous allez dans les couvents, vous allez dans les... Tous les soirs, quand j'ai les cisterciens, les trappistes, les bénédictins, l'immense majorité des moines et des moniales sont lisent le soir une partie de la règle de Saint-Benoît. Dans tous les monastères, c'est comme ça. C'est beau ça, il faudrait faire ça dans les familles, vous vous mariez. Je m'engage à ce qu'on lise tous les soirs une partie de la règle de Saint-Benoît. Et la règle de Saint-Benoît, c'est une règle où... C'est une règle du mois de septembre. C'est une règle où on fait monter à la surface l'exigence de l'humilité. C'est pas seulement l'exigence, c'est l'évidence de l'humilité. C'est la, le jugement de tout est fonction de l'humilité. S'il n'y a pas l'humilité, la vie commune est impossible. Alors, il y a les 11 degrés d'humilité de Saint-Benoît. Et alors, tous les soirs, il y a une petite goutte de la règle. Et on entend l'humilité. Les 11 degrés d'humilité. C'est beau ça. C'est très simple. C'est très clair. Et puis, c'est très concret, si je puis dire. Là, par exemple, le premier degré d'humilité. Il faudrait connaître par cœur, en fait, c'est le 11 degré d'humilité. Et il y a le premier degré d'humilité, quand on explique ça dans un noviciat, ça fait rire, parce que voilà, parce qu'il y a, on voit tout de suite, elle me rappelle avec, on nous racontait ça, que chez les Dominicains, du seul choix, il y avait un père qui s'appelait le père Gérard des Lauriers, que j'ai toujours trouvé, moi, personnellement, dans ces textes totalement admirables. Et, bon, le père Gérard des Lauriers, ben, le premier degré d'humilité, c'est celui qui arrive toujours en retard. Il y a un rendez-vous. Je dis, bon, ça va, j'ai encore 5 minutes, hein, je vais prendre un café. Voilà. Et j'attends que l'heure soit passée pour arriver. Je ne vais pas avant. Et oui, si j'ai rendez-vous avec le pape, c'est au pape d'attendre, c'est pas à moi. Donc, j'arrive en retard. C'est normal. Il y en a un qui doit attendre, c'est forcément le pape, c'est pas moi. Alors celui qui arrive en retard, c'est le premier degré d'humilité. C'est extraordinaire ça, de savoir que Saint-Benoît, ça, c'est le numéro un. Déjà, ça veut dire que celui qui arrive systématiquement en retard, il peut être certain qu'il n'a pas franchi le premier degré d'humilité, c'est-à-dire qu'il n'a jamais fait un acte contraire à l'orgueil de toute sa vie. C'est le premier degré. C'est le rasibus, quoi. C'est la tondeuse. Il faut que pas ça râle. C'est le premier degré. Alors le père Gérard des Lauriers, lui, c'est un dominicain, il est précis. Et donc il arrivait toujours pile à l'heure, à l'office. Ah, pile à l'heure. Et puis il avait des charges, des travaux. Et Mais il arrivait toujours pile à l'heure. Quand je faisais un travail, par exemple, sur la théologie, sur la relation subsistante, dans la prédestination de Marie, par exemple, alors on lui disait, mais mon cher Père, est-ce que... Il y a combien de personnes dans le monde qui sont capables de comprendre ce que vous avez il y a dans ce petit fascicule de 40 pages? On lui dit peut-être une. Au maximum trois dans le monde. On dit, ah bon. Et c'était trop, c'était vraiment quelqu'un. Et ce qu'il disait, c'était vertical, c'était imparable, c'était précis. C'est une des plus grandes intelligences que le siècle ait porté. Alors les novices, ben, dominicains, bon, attends. Il arrivait juste quand Bergard avait rentré passer la porte de la chapelle pour l'office, c'est qu'il ne restait plus que 4 secondes, parce qu'il y avait 3 secondes et demie pour arriver jusqu'à sa stalle. Et donc elle arrivait à sa stalle, et s'arrêtait, et il ne restait plus qu'une demi-seconde, quand sonnait ting, le début de l'office. Alors du coup les novices, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ben, dans le cloître, là, juste avant d'arriver à la chapelle, on va mettre un fil, on va tendre une corde. Et puis, tendre la corde. Donc le père Garolet arrive à l'office, et puis tendre la corde, et paf, il tombe par terre. Et donc il est arrivé en retard. Il est arrivé 2 secondes, enfin il s'est relevé 3 secondes, 4 secondes, en retard. Alors tout le couvent a rigolé, quoi. On lui avait fait une bonne leçon quelque part. C'est des petits novices qui avaient fait une bonne leçon. Et c'est toujours plein de charme, de la vie commune, hein, la vie religieuse. Le premier décret d'humilité, c'est du bon sens, c'est vrai. C'est vrai. On va vous attendre tranquille, on a le temps, hein, la table n'est pas louée. Mais j'arrive en retard, c'est extraordinaire ça, parce que... Alors Saint-Benoît, il dit, voilà, non, le pape, ben, il dit, voilà, quand vous avez, je sais pas moi, le père spirituel, je veux dire, l'église, quoi, elle vous dit, ben, avant que Jésus n'arrive... Les humbles sont venus d'abord avant. Et Marie est venue avant le Christ. Saint Joseph est venu avant. Il y a eu la préparation. Il y a eu la grâce antécédente. Et il y a eu la grâce d'humilité. S'il n'y avait pas l'humilité et l'huile de la douceur qui font l'harmonie de l'humilité commune, l'incarnation et la croix, notre Seigneur Jésus-Christ, auraient été strictement impossibles. S'il n'y a pas, avant les grands événements, du temps de Dieu dans l'histoire de l'Église, s'il n'y a pas une espèce de Pentecôte communautaire, d'humilité totale, il n'y aura pas l'événement en question. Parce que il faut l'humilité. L'humilité, qu'est-ce que vous voulez? Elle reçoit. Et à tous ceux qui le reçoivent, il donne qu'il y ait l'engendrement éternel de Dieu dans la terre. Alors il y a, par exemple, dans les degrés d'humilité, il y en a quand j'étais rentré au noviciat, je savais pas que c'était pas bien, moi. Mais j'aime bien rire. Alors, mais on entendait mon rire. Alors, ils étaient tous là, au repas ou dehors, quand tu entends le rire. Ça, c'est 7e degré d'humilité. Stultus, tandis Saint Benoît, Stultus, c'est stupide, c'est l'orgueil des gens stupides. Stultus in risu, exaltat vocem suam. Alors, moi quand je riais, parce que quelquefois on avait. C'était drôle, hein, vous savez, il y a des choses vraiment drôlissimes. Hein. Alors vous riez, moi quand je riais, bah, ça s'entendait. C'était pas exagéré, mais ça s'entendait. Hein. Alors à ce moment-là, je voyais tous les regards. Et puis le vieux père Emmanuel, c'est. Mais alors, je te le tousse une raison exactable pour Tu sais, c'est l'imbécile, c'est le crétin, c'est l'homme stupide. L'orgueilleux, lorsqu'il n'a plus d'autres ressources pour faire grandir son orgueil, alors il l'exprime par des cris. Et il s'exalte à travers la voix, à travers le rire. Stultus in risu, exaltat vocem suam. Lorsque dans l'oreille, non, c'est pour ça que tu ris, oui, tu ris, tu peux rire si tu veux, mais ça ne s'entend pas. Parce que c'est une exaltation. Et s'exalter, c'est attirer l'attention. Et bien quand tu es coincé, ton orgueil est coincé, cerné de tous les côtés, il ne reste plus que ce 7e degré d'humilité pour continuer à nourrir son point d'orgueil. Stultus in risu exaltat vocem suam. C'est extraordinaire. Saint Benoît, c'est extraordinaire. Le 11 degré d'humilité, Saint Benoît. Et là, tu t'aperçois que bon. Grâce à cette petite lecture qu'on fait de la règle de Saint-Benoît tous les jours, pas toute la règle, sinon ce serait pas possible, mais une partie à chaque fois. À chaque fois, il y a des indications très simples, comme celle-là qui me vient à l'esprit. Voilà, il y a tout le monde aime beaucoup le 9e degré d'humilité, où quand tu as quelque chose qui. Il y a un service à rendre dans la maison, un service à rendre, bon, je sais pas moi, une obéissance, enfin, tu vois que, j'en sais rien moi, quelqu'un il souhaiterait vraiment, qu'est-ce qu'il aimerait, que je fasse la vaisselle, ou alors je dis n'importe quoi, bon, enfin, peu importe. Mais l'exemple que donne Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, c'est de faire du ménage dans les toilettes, sur les excréments, quoi. Ça sent très mauvais, ça a envie de vomir, quoi, vraiment. Bon. C'est une complexion très délicate. Hein. Oh. Bon, et bien quand il y a quelque chose de très. Pas humiliant, c'est pas ça. C'est que. Très révulsant, disons. C'est quelque chose qui t'est difficile parce que tu as du mal, ça du mal, vraiment. Et tu le fais, et pendant que tu le fais, instinctivement, d'une manière compulsive, si je puis dire, au lieu de vomir, tu as une montée de joie à l'intérieur de toi. Ça, c'est le 8e degré d'humilité, c'est beau le 8e degré d'humilité. Si dans ta journée, tu fais un geste comme ça dans le service, tu fais ta vaisselle, mais tu y mets énormément d'amour. À ce moment-là, il y a une joie qui se fait au moment, une joie divine qui vient et qui monte pendant que tu es en train de faire la vaisselle. Ça dure une seconde. Le soir, Saint Benoît explique que si tu fais des actes d'humilité comme ça, dans le 8e degré, et bien le soir, tu es dans l'espérance. Tu ne peux pas désespérer, être dans l'angoisse le soir, et si tu as une angoisse le soir, quand tu t'endors, c'est que tu n'as fait aucun acte d'humilité dans ta journée. Aucun acte d'espérance, aucune joie dans les choses les plus méprisables, les plus... Tu rends des services comme ça, ville, c'est ça, la ville. Mais à ce moment-là, il y a une joie pendant que tu le fais. Ça, c'est le signe, ça. C'est très intéressant, c'est très beau, ces petits signes, ces petits jalons, quoi, qui nous permettent on les repère, et du coup, on s'y met, vous comprenez? Parce que pour avoir l'humilité, ben, il faut poser des actes héroïques à chaque fois. Vous en faites 1000, ça y est. Après, c'est facile, ça se fait presque instinctivement. La plante a poussé, c'est une petite violette, et elle a son odeur en permanence. Alors vous pouvez passer au 4e degré d'humilité. Voilà. Et le 11e degré d'humilité, il est beau aussi, c'est il est magnifique, c'est... Un jour j'ai vu ça, c'était un songe ou une vision, je ne me rappelle pas. Moi qui n'ai jamais de songe, jamais d'apparition, jamais de vision. Mais je voyais sortir comme ça des moines d'une église. Alors les premiers moines sortaient, ils étaient pieux, hein, c'était des jeunes. Alors, en fait, ça arrivait jeunes, et puis ça terminait par les plus vieux. Il y en avait, 100, 200, 300 moines hein, qui sortaient. Et ils regardaient leur visage, et les premiers qui sortaient, c'était des jeunes. Et, bah, ils rentraient, ils couraient derrière les vieux, vers les saints du monastère. On court derrière autant qu'on peut, quoi. Comme des jeunes, comme des ados, le pu qui sortait de l'homme. Alors ils essaient de regarder par terre, bon, parce qu'il paraît qu'il faut regarder par terre, bon, ça doit très bien pour être là. Et quand on les voyait, on avait un mouvement de recul, quoi. On n'avait pas du tout envie de se jeter dans les rois, quoi, pas du tout. Un moment de recul, ça. Ah, voilà. Et puis au fur et à mesure, avec les années, à force, ils étaient plus calmes, ils forçaient moins, je veux dire, ils sont... Et puis à un moment donné, au milieu voilà, il y avait une humilité, si on veut, il y avait une simplicité, on pouvait avoir un moine, c'est réconfortant de voir un moine, finalement, bon. Mais ceux de la fin, ceux qui avaient l'humilité parfaite, les vieux, quoi, le dernier, on regarde le dernier, et je regarde le dernier, et ce dernier, l'humilité était tellement parfaite que il aspirait. Enfin, on avait envie de se jeter, de se fondre à l'intérieur de son cœur. Et le seul fait de le voir, on devenait humble. Au seul fait de le voir, on devenait humble. L'humilité, aussitôt, hop, il y avait quelque chose qui faisait qu'on on était en lui, et puis bon, il passait, et on avait l'âme. Et on recevait une grâce d'humilité. Mais il y a une espèce d'âme, au contraire, de repousser, quoi. C'est, il attirait celui-là. L'humilité attire comme ça. Marie, elle a attiré. Et Dieu, j'aime bien, là, dans la Bible, pour hein, la révélation. Dieu a regardé dans Marie, Dieu a regardé en la Vierge. Il a regardé l'humilité de sa servante. Parce que l'humble, c'est très attirant. C'est très impressionnant, quelqu'un humble. Et lui, il ne le sait pas, bien sûr. Il passe. Et il engendre l'humilité. Le seul fait de passer, ça ne trompe pas, ça. Ben, de voir cette petite songe, cette petite vision-là, qui était vraiment très impressionnante, je vous avoue. Il faudrait en faire un dessin animé, je sais pas quoi. Mais ça doit être possible, je sais pas si c'est possible, parce que on doit pouvoir voir ce repoussoir que fait ceux qui n'ont pas encore fait pousser les vérités et parfums intérieurs de l'humilité. Et puis le contraire, cette espèce de même la poussière, même les fleurs, tout. Quand est passé celui-là, quand passait le dernier. Voilà, c'est l'onzième degré d'humilité. L'onzième degré d'humilité, c'est qu'elle engendre l'humilité partout où elle passe. Alors, quand tu regardes les yeux de la Vierge Marie, de la Sainte Vierge, t'as envie de te fondre en elle, parce que, dans ses yeux, parce que tu as l'impression de rentrer dans des millions de millions de myriades de paradis célestes. Et c'est l'humilité qui fait rentrer dans le regard. Et quand tu regardes, il regarde l'humilité. Voilà, donc je sais pas pourquoi je vous dis ça. Ah oui, c'est parce que Jésus dit dans l'évangile qu'il faut quand même pas prendre la première place, quoi. D'accord, c'est sûr, faut pas prendre un peu. Et c'est les derniers qui sont en fait les seuls qui sont invités aux noces. À la droite de Dieu le Père, c'est vrai, ça on sait bien. Mais vous voyez, c'est quand même c'est ces actes-là qu'on doit faire. Il faudrait qu'on fasse une. Il faudrait faire un petit fascicule comme ça avec les actes à faire, les actes à ne pas faire. Le signe est négatif, tu tiens la porte, tu n'as pas fait un seul acte d'humilité de toute ta vie. Tu en tiens la preuve, tu le tiens. Et là, tu fais ça, tu verras, petit à petit, tu vas pouvoir. Accepter tes pauvretés de fait. Hein, le deuxième degré d'humilité, c'est d'accepter ses pauvretés de fait. Bon, je suis pas beau, Je suis maladroit. J'ai une famille épouvantable. Enfin, j'ai des pauvretés. Et de fait, je sais pas au fond de moi une joie permanente, surabondante, communicative. J'ai des pauvretés, quoi. C'est vrai, j'ai des pauvretés. Bon. Ben, accepter cette pauvreté, de fait, deuxième degré d'humilité, c'est esprit de pauvreté. C'est vrai, après tout. En fait, quand on rentre dans la vie chrétienne, on rentre dans les conseils évangéliques, et dans les trois conseils évangéliques, c'est la porte d'entrée, c'est l'esprit de pauvreté. Hein? Quand on fait les vœux, par exemple, en religion, on s'allonge par terre, et on signe sur l'autel où le sang de Christ s'écoule. Qu'on va s'engloutir dans l'esprit de pauvreté toute sa vie, d'obéissance et de virginité. Et la virginité, c'est la pauvreté, c'est l'humilité de l'intelligence contemplative. Si ton intelligence contemplative et mystique n'est pas inscrite dans la virginité, ben, elle n'est plus contemplative du tout. Il faut avoir l'humilité pour pouvoir pénétrer au-delà de soi, dans la lumière intime et invisible. Beaucoup plus grande que la tienne, laquelle tu pénètres pour pouvoir t'en nourrir. Et l'esprit de l'obéissance, c'est pareil. L'esprit d'obéissance, elle est toujours prêt à partir. Ça. On est prêt. Dans la Bible, d'ailleurs, on se tient toujours au moment de la scène de l'Eucharistie. Bon, voilà, à un moment donné, au moment du chant du Hallel, tout le monde avec son bâton, tout le monde est debout, les deux pieds par terre. Et sinon, le reste du temps, pendant la scène, pas au début, mais à un moment donné, attention, le Messie pourrait arriver. Alors à ce moment-là, il faut avoir les deux pieds par terre. Pourquoi Saint Benoît explique Parce que si t'as pas les deux pieds, si t'es pas debout, ou si t'as pas les deux pieds, tu es presque debout, ça, tu vois, mais t'es presque debout, quand il arrive, bon, par exemple, je sais pas, moi, tu es comme ça. Hein? Vous avez vu dans l'église des gens qui croisent des gens comme ça, l'évêque, l'enfant de cœur, comme ça. Même formation, même les formations, ils font pas ça. Dans le cœur d'une église. C'est un peu. Parce que si Jésus arrive, il arrive, bon. Hop, 1, 2, 3, trop tard. Je peux pas prendre mon envol. C'est ce que je veux dire. Ah, regardez, là il est bon. 1, 2, 3, il y a 4 mouvements. C'est des choses idiotes, ça, mais c'est pas si idiot que ça. C'est pas si idiot que ça. Si t'as pas l'obéissance, tu peux pas te jeter immédiatement dans le cœur de quelqu'un d'autre pour y venir y pousser l'amour, parce que. Un acte d'amour, c'est immédiat. Tu y vas, tu rentres dans le cœur, tu t'abreuves de l'amour qui est dans le cœur de ton prochain, c'est immédiat. Tu y vas, hop, irai, tu vas au-devant, tu y voles, tu t'y précipites, toi tu n'existes plus, et tu te nourris de l'amour qui est dans son cœur. C'est immédiat. L'obéissance, c'est immédiat, c'est fervent, immédiat, efficace. Mais c'est pas l'humilité. Hein? S'il n'y a pas l'humilité du cœur, comment est-ce qu'il peut y avoir l'envol de l'extase, du ravissement, de l'attardement? Voilà, et donc quand les conseils évangéliques sont quand même on se fond de base, de ce fond, de la foi. Et la foi, elle trouve son nid dans, dans la terre, humus, humilitas, ce en quoi humilitas, humilitatis, c'est ce en quoi l'humus, la terre, est une bonne terre. Il y a quelque chose dans la terre qui fait que elle est habitée de l'intérieur, c'est l'humilité. Alors, du coup, on accepte ses limites. Nos limites sont des pauvretés de fait. Eh bien, j'accepte mes limites, j'accepte mes pauvretés de fait. Non seulement je les accepte, mais je suis drôlement heureux d'avoir ces limites. Et oui, parce que si j'avais pas ces pauvretés de fait, je pourrais pas rentrer dans le deuxième degré d'humilité, c'est un peu ennuyeux. Je sais pas, j'ai un fond d'angoisse. J'en peux plus, il faut qu'on me fasse des médicaments, je vais à l'opsy, un fond d'angoisse, qu'est-ce que ça peut faire? Les chiens à bois, la caravane passe, mais au moins, enfin, tu as quelque chose, tu as une pauvreté, c'est une pauvreté, c'est une limite. Si tu regardes, heureusement, il n'y a aucune splendeur dans ta vie s'il n'y a pas de limite. Un lys, par exemple, c'est beau. C'est beau. Pourquoi ? Mais parce qu'il est limité dans sa forme. Alors, la lumière vivante de sa forme lui donne sa beauté. Si la beauté d'une plante, d'un être humain, d'un ange, était sans limite, eh bien, la beauté n'existerait plus. C'est les limites qui donnent à la vie sa splendeur et sa vérité. Et la volonté aussi, la liberté dans l'heure du don. Ça m'a été étonné d'être limité. Je ne suis qu'un être humain. Je ne suis qu'un pauvre homme. Voilà. Un jour, je revenais de ça. Mon frère, il fait 70 kilos, moi je fais 140. Quand même, on est deux jumeaux, on a le même génome, on a le même ADN, c'est pas normal. Donc pendant des années, comment est-ce que je fais pour enlever ces 50 là? Et on fait des efforts, etc. Plus on fait d'efforts, plus ça en rajoute. Ah bon, très bien. Alors un jour, je reviens comme ça. Je reviens de Rome, je reviens de San Giovanni Rotondo, on avait été même jusqu'à l'hôpital de Padre Pio. Je dis, ne vous inquiétez pas, on vous garde 15 jours, vous allez voir, on va vous montrer, vous prenez ça, 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 puis quand vous sortez, vous verrez, Et quand je suis sorti, j'avais 7 kilos de plus. Je dis, bon, ça va quoi. Pourquoi je dis ça? C'est complètement idiot. Ah oui, c'est parce que je me suis dit, bon, puisque c'est comme ça, je vais aller voir mon cousin qui est à Rouen. C'est son métier, il est chirurgien. Il va me faire il va me couper le. C'est son métier, c'est ce qu'il fait. Il coupe l'estomac en deux, comme ça, hop. Comme ça, puis c'est tout. Il fait une ligature. Voilà, je me fais opérer par mon cousin. Voilà. Alors, je commence à dire, bon, je vais lui téléphoner. La Sainte Vierge n'était pas du tout d'accord. Elle a fait une apparition à une mystique, à une autre, elle est stigmatisée, etc., qui se sont débrouillés. Ça fait des années que je n'ai pas entendu parler d'eux. Et ils m'ont envoyé le message, la Sainte Vierge vous fait dire, vous devez vous accepter tel que vous êtes. accepter ses pauvretés de fait. Mais je suis forme avec ça. Puis c'est lourd. Père Patrick, dites au Père Patrick qu'il doit s'accepter tel qu'il est. Il faut qu'il se... La phrase exacte. Il était plusieurs. Hein. Bah, du coup, j'ai pas fini. Du coup, j'ai pas téléphoné à mon cousin. Accepter ses pauvretés de fait. On a des maladies. Oh, très bien, on a des maladies. C'est agréable d'être malade. C'est très bien. C'est excellent. La phrase exacte de Saint-Gilles, la fausse transmettre, c'était. J'étais très touché quand même que la Saint-Gilles s'intéresse à mes formes. Je trouve ça très touchant. Mais, je dis bon, d'accord, mais enfin, il faut qu'il s'insupporte comme ça. Il faut qu'il s'insupporte comme ça. Mais personne ne doit le toucher. Le deuxième degré d'humilité, il est très simple. Hein. J'accepte mes pauvretés de fait. Je suis content comme ça. J'en rends grâce à Dieu. Je ne m'attriste pas. Et parce que je suis... limité, j'ai pas les forces, j'ai pas les intelligences qu'il faut, j'ai pas la splendeur qu'il faut, très bien, j'ai pas la sainteté qu'il faut, peut-être aussi, hein, c'est possible. Vous savez, à cause de ça, c'est pas simplement une joie profonde, j'ai un dynamisme, une légèreté, quoi. J'ai les yeux ouverts, quoi. Et j'ai ma place. Vous savez, quand vous faites, vous dites que vous avez des vertus, puisque en ce moment, c'est une des choses qui manque beaucoup à notre chrétienté aujourd'hui. L'éducation, même dans les paroisses et puis les communautés, tout ça, une chose qui n'existe plus, c'est la culture des vertus. Hein, on a un cœur, très bien, on a une intelligence, on va la cultiver. Et on a une pauvreté, on a une liberté dans cette pauvreté. À l'intérieur de la pauvreté, de l'humilité native qui est la nôtre, il y a une force pour se donner tel qu'on est. La liberté de don, elle est liée à la pauvreté de fait. Mais il n'y a rien pour nous expliquer comment, dans ces puissances, dans cette bonne terre qui est là, comment faire pousser les fleurs, le jardin, les arbres, l'arbre de vie, l'arbre du ciel, l'arbre de... tous les arbres tous les arbres de la vision béatifique, de la lumière de gloire de Dieu, tous ces arbres qui poussent dans nos trois puissances. Et qu'il faut que c'est verdoyant, que c'est odoriférant, ça chante, tous les oiseaux du ciel viennent dedans, ça chante, tous les anges aiment bien se mettre dans nos vertus. Comment faire pousser toute cette végétation, cette floraison, ces parfums? Eh bien, on ne l'explique pas. On n'explique pas comment tu fais pour faire un acte qui fait que petit à petit, cette fleur extraordinaire, inconnue, je ne connaissais même pas le mot, la vertu de sponsalité, par exemple. Je connais personnellement des gens qui se sont préparés au mariage et qui n'ont jamais fait un seul acte pour faire pousser en eux la vertu de sponsalité. Partout, cette fois, ils n'en ont même pas entendu parler. Donc, encore plus de savoir quels sont les actes qu'il faut poser pour mais pour la mise en place de la signification sponsale du cœur. Quand on est une femme, c'est pas une seule fois que tu l'as fait. Et l'humilité, comment tu fais pour faire pousser, faire un acte héroïque? Comment? Et donc les vertus, c'est un mot désuet, vous comprenez? Les vertus, vous dites ça, oui, mais il faut cultiver la paix, c'est une vertu la paix. Quand tu communiques la paix, ta seule présence, ça communique la paix. Dans la vertu de la paix. La vertu d'amour aussi. C'est des vertus, ça. L'amour, c'est une vertu. La charité, c'est encore une autre vertu. La magnanimité, tu vois les choses en grand. Tu vois toujours, je ne sais pas, t'es pas tout mesquin, oui. C'est pas la... Non, la magnanimité. L'humble voit toujours les choses en grand. Il voit toujours ce qui est plus grand. Donc il faut être tout en grand. Et pas se contenter d'une vie mesquine, tu sais. Oui, bon, attendez, on ferme l'huître, on ferme la porte, peut-être. Le grain de papier. Voilà. Comment on fait? D'abord, quelles sont ses vertus? Et surtout, comment on fait? Il faut éviter l'extrême de droite et l'extrême de gauche, parce que la vertu est toujours dans le juste milieu. Donc il faut repérer pour chaque... Tu fais l'extrême de droite, l'extrême de gauche. Et ça ne s'apprend pas tellement. Hein. Pourtant, c'est essentiel. Parce que si je n'ai pas les vertus, mon cœur ça va... Les vertus, c'est les arbres, les mains et les bras qui sortent de ma puissance pour faire quelque chose. J'ai beau avoir un cœur si je n'ai pas fait pousser les actes, les mains, et du coup les bras pour étreindre ce pourquoi le cœur a existé. Ben, s'il n'y a pas les vertus, alors j'aime, l'amour me tombe dessus, j'aime, je tombe amoureux, très bien, je me marie. Mais j'ai pas les vertus, donc je peux jamais étreindre l'amour. Puisque j'ai pas la vertu d'amour, j'ai pas la vertu d'humilité, j'ai pas la vertu de patience, j'ai pas la vertu de j'ai pas toutes ces vertus. Il y a quelque chose qui est pas loyal en moi, la loyauté. C'est magnifique, quelqu'un qui est loyal. J'ai pas la vérité, la vertu. La vérité est une vertu du cœur. Comment est-ce qu'on fait? Voilà. C'est beau, hein, ça s'appelle la... Aujourd'hui, on appelle ça l'éthique. L'éthique, c'est toujours... On met des... Situation limite, voilà, l'éthique, on détermine les situations limites auxquelles on peut d'ailleurs déroger. C'est pas du tout pour faire pousser une vertu. Voilà. Alors justement, il y a une loi éternelle à l'intérieur de nous. Et cette loi éternelle, elle nous est donnée dans la mémoire d'Aï. La mémoire d'Aï fait jaillir à l'intérieur de nous comme une espèce d'émanation. Waouh! Comme ça, des bouffées comme ça. Cette loi éternelle apparaît comme ça dans notre conscience pour nous faire faire quelque chose de joyeux, d'humble et de profondément habité. On a fait l'expérience de la loi éternelle. Et cette loi éternelle nous pousse à agir dans une obéissance intérieure gratuite, totalement gratuite, totalement libre, totalement amoureuse, totalement joyeuse. Et parce que j'ai fait cet acte-là, mais du coup, je m'endors le soir, je suis content. Ça s'appelle la loi éternelle. Si tu fais une éthique sans la loi éternelle, sans déterminer, sans voir, sans faire apparaître, sans faire apparaître à l'intérieur de toi la libre expression, la libre montée et l'obéissance à cette loi éternelle quelque part, hein, tu ne peux pas avoir les quatre vertus cardinales. Toute la sagesse humaine, c'est de faire en sorte qu'il y ait ce jardin extraordinaire de la splendeur. Parce que nos puissances spirituelles montent à la surface et ce sont elles qui agissent. Ce n'est pas nos instincts, ce n'est pas notre orgueil, ce n'est pas notre présomption. C'est pas notre hypocrisie, c'est pas notre calcul, c'est pas nos peurs. Encore que les peurs peuvent en servir, comme étant des pauvretés de fait, grâce auxquelles on fait confiance. Mais faire confiance, c'est dès qu'il y a une peur ici, il faut faire un acte. Faire grandir la vertu de confiance. Tiens, j'ai peur, et ben, puisque j'ai peur, je vais faire confiance. J'ai peur, je vais au supermarché. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi je raconte ça. C'est de l'agapé pneumatologique. C'est de l'agapé psychospirituel, en fait, ça. Bon, eh bien, je ne sais pas, mais j'ai peur que qu'on vienne voler ma voiture, qu'on vienne voler des trucs dans ma bagnole. Je sais pas. Alors du coup, alors avant d'aller au magasin, les vitres montent, je sors de la voiture, je ferme ma clé, je vais au coffre de voiture, j'arrive ici, bien fermé, je passe 10 minutes. Et si, puis je vais vers ce magasin, j'ai peut-être oublié le puis j'y retourne, puis pour vérifier. Mais oui, non, ça va, tout est fermé. Je reviens. Ah, pas non. J'ai peur. Hein. J'ai une peur. Bon, eh ben, ça, c'est quelque chose, c'est compulsif, c'est pas bien, c'est pas normal, ça. C'est une tare noogénique. Comment on appelle ça? C'est une tare noogénique. Alors, qu'est-ce que tu fais, bêta? T'as peur, ah bon? Ben, tu constates que ça, tu as peur. Bon, et du coup, tu as quitté même ta maison, tu as bien fermé la clé, hein, tous les bureaux, les fenêtres, tout ça. Et bien, ce jour-là, si tu veux savoir ce que tu dois faire, pour si tu veux avoir un acte de confiance, ben, ce jour-là, tu laisses les fenêtres ouvertes, tu laisses la porte de ta maison, tu ne fermes pas, tu vas au supermarché, tu laisses. Tu fermes pas ta bagnole, tu vas, et puis tu constates que personne n'a volé ta bagnole. Puis tu rentres à la maison, tu perds personne. Au contraire, quelqu'un a pu rentrer et te laisser un petit mot. Tu as fait un acte de confiance, tu as fait exactement le contraire de ta peur. Tu as fait un acte de confiance. Faire ça tout le temps, je suis bien d'accord. Mais c'est ce qu'on appelle la thérapie de l'intelligence pratique. Ça. Quelquefois, l'intelligence pratique, les gens sont complètement bloqués. Je sais pas, comment ça tu sais pas? C'est parce qu'il y a un phénomène noogénique, une tare noogénique. Pour repérer, là où tu as le. Là où tu bloques. Il faut accepter ses pauvretés de fait. Et quand on a accepté ses pauvretés de fait, on les repère. Et du coup, on fait les actes de vertu contraires, pour ne pas tomber dans l'excès du vice. C'est quelqu'un qui communique l'angoisse partout, c'est un vicieux. C'est pas une victime, c'est un responsable. C'est parce qu'il ne fait pas grandir en lui les vertus. C'est un manque d'humilité. Il faut faire des actes d'humilité, il faut faire des actes. Alors le confesseur a. Comme pénitence, il faut des actes d'humilité. Mais c'est sûr que Dieu, quand il regarde vers la terre, il cherche l'humilité. Et dès qu'il la voit, il s'y emblottit. Il laisse les autres. Et c'est une des qualités, ou c'est le dire la qualité, c'est du nouvel Israël, du dernier Israël de Dieu, de son humilité. Le roi de France, le grand monarque, ce qu'on appelle le grand monarque, c'est la Vierge de l'Église, va donner son fruit, la terre de l'Église va donner son fruit dans la femme, elle va enfanter dans la douleur. Le plus grand saint de toute l'histoire de l'Église. Et c'est ça qui va permettre au royaume de Dieu de se répandre partout dans le monde, dans tous les êtres de vie. Et ce grand saint, ce sera l'humilité, si je puis dire, de Dieu, son effacement, incarné dans un être humain. Ce sera l'incarnation, ce sera l'humilité de Dieu, mais incarné. C'est ça, le grand monarque. C'est lui. Si vous le voyez, vous le verrez tout de suite. C'est à ça que vous le reconnaîtrez. Et si vous le voyez, téléphonez-moi, ça m'intéresse. Bon, voilà, parce que quand Dieu s'est incarné, c'était Jésus. Quand la virginité, la contemplation limpide amour de Dieu s'est incarnée, ça a donné l'Immaculée Conception. Quand l'ajustement de Dieu à lui-même et à toute chose s'est incarné, ça a donné Saint-Joseph. La justice de Dieu incarnée, c'est Saint-Joseph. Mais l'humilité incarnée, c'est le véritable et dernier Israël de Dieu sur la terre, dernier Jacob, le roi, le grand monarque. Pour gouverner le monde, pour gouverner un pays, il faut une humilité quasi substantielle. C'est la seule compétence qu'on demande à un empereur, à un roi. En tout cas, au roi de France, c'est sûr. Puisque s'il arrive en disant, écoutez, voilà, je suis Jupiter, c'est sûr que c'est pas lui le grand monarque. voiture, il va regarder. Il regarde le monde, je sais que si mais jamais aujourd'hui, il ne sait pas opposer ses regards. Il trouve quelqu'un. C'est l'humilité incarnée qui a fait, qui a poussé, qui a reçu, qui reçoit d'en haut les écoulements, qui fondent en lui, et qui l'en approfondit, qui approfondit l'abîme de sa pauvreté. Voilà. En surabondance d'humilité joyeuse, profonde, d'amour, et un quelqu'un qui communique précisément. Et du coup, toute la terre est bonifiée, toute la bonne terre, le monde entier, la nature humaine, à cause de lui, la nature humaine tout entière est bonifiée, elle s'ouvre, et elle reçoit l'humilité de la servante. L'humilité immaculée de Marie, la Pentecôte, l'Immaculée Conception dans toutes les humilités, dans tous les êtres, dans tous les visites, la conception de tous les êtres humains grâce à lui, par une cause méritoire. Dans le ravissement de son humilité parfaite, il disparaît à ses propres yeux. Il y a cette émanation de la Pentecôte. De ce qu'on appelle l'avertissement, je trouve qu'on ne devrait pas appeler ça l'avertissement. C'est un avertissement en ce sens que quand ça va se manifester à nous, avec toute sa clarté pendant une demi-heure, ça va nous avertir qu'il ne faut pas être orgueilleux. C'est tout. Excusez-moi, je n'ai rien à voir, mais c'est pas grave. On va dire la messe, c'est ça qui compte. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant.